s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4. En fin de semaine prochaine, on a une conférence ici. Qui est inscrit à la conférence de couple? Juste lever la main pour nous donner une petite idée. Il y a 3-4 personnes. Je pense qu'on a une cinquantaine d'inscriptions, quelque chose comme ça. Alors, je vous demanderai de prier, s'il vous plaît, cette semaine. Il va y avoir 300-400 personnes qui vont venir ici vendredi soir et samedi pour une conférence pour les couples. Et donc, d'un peu partout au Québec, puis même il y a des projections satellites maintenant avec Sambec. Donc, je ne sais pas, là. Et où, Jessica? Tu sais, Jessica, combien tu as de monde à peu près d'inscrits à la conférence? OK. Qui va être ici, qui va être ailleurs? Mais à peu près 500 personnes, c'est ça. Et le conférencier qui vient, Winston Smith, c'est ça, fait partie de l'organisme CCIF. Et c'est un organisme qui, toute l'aide qu'ils essaient d'apporter dans notre croissance, dans notre transformation, est toujours centrée sur l'Évangile, sur l'œuvre que Christ a faite pour nous. Et un peu ce qu'on va parler ce matin, un peu ce qu'on parle dans le cours avec moi, connaître Dieu, c'est toujours de revenir à saisir davantage qui est Christ. Et vraiment, leur travail, leur ministère est centré sur la personne de Christ. Alors, j'aimerais ça demander à l'Église de prier cette semaine pour les couples qui vont assister à cette conférence-là. S'il y a bien une place où Christ veut manifester sa gloire et montrer la puissance de l'Évangile, c'est dans nos relations de couple, d'accord? Dieu veut montrer la puissance de l'Évangile dans nos relations de couple, quelles que soient les situations qu'on est en train de traverser. Et ces gens-là de CCF font un beau travail pour nous ramener toujours à la personne de Christ. J'aimerais vous demander d'être dans la prière cette semaine, afin que nos couples puissent vraiment glorifier le Seigneur. C'est vague un peu dit comme ça, mais vivre l'Évangile dans nos relations. Et qu'il y ait cet amour qui vient de l'Évangile qui soit là, qu'on comprenne des idées comme celles que Patrice nous avait enseignées l'autre jour, Patrice Major, vivre Éphésiens 5 dans nos relations de couple. D'accord? J'aimerais demander à l'Église d'être dans la prière pour ça. Une autre quête aussi, c'est notre sœur Denise Gagnon qui a perdu son frère. Probablement que la majorité sont au courant. Notre sœur a perdu son frère il y a déjà quelques semaines. Je sais que Dieu, dans sa grâce, l'accompagne et ça va quand même bien malgré les circonstances. Mais on n'a pas eu l'occasion de prier en assemblée un dimanche matin pour elle. Et j'aimerais qu'on puisse le faire tout de suite, qu'on puisse prier pour que Dieu amène sa consolation, qu'il vienne la bénir. Je sais qu'elle a à cœur aussi ses enfants et petits-enfants, son fils Jean-François et ses petits-enfants, son petit-fils. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier pour Denise. On va l'ensemble dans la prière, placer nos cœurs devant Dieu. Seigneur Jésus, j'aimerais t'amener ma sœur Mme Gagnon qui t'aime, Seigneur, énormément. Elle ouvre la bouche pour parler de toi, de son désir de te voir te glorifier dans sa famille, Seigneur, de son désir de te connaître davantage, d'être transformée à ton image, Jésus. J'aimerais te prier pour elle, Seigneur, afin que tu viennes continuer à la consoler. J'aimerais te prier pour elle, Seigneur, aussi, pour que tu puisses bénir son témoignage dans sa famille. Je pense à Michel, son époux, Seigneur, qu'on aime beaucoup. Je te demande, Seigneur, de venir saisir son cœur. Viens lui révéler Jésus-Christ. Je te prie, Père, pour Jean-François. Je te demande d'amener Jean-François à saisir vraiment Christ au centre de sa vie et son petit-fils, Seigneur. Entends les prières de cette épouse, de cette maman, de cette grand-maman, Seigneur. Et viens la consoler dans son deuil. Viens lui donner de la joie en voyant ton œuvre, Seigneur, se manifester dans sa maison. Père, j'aimerais te prier pour la conférence de couple qu'on va avoir ici la semaine prochaine. Seigneur, c'est, C'est dans la mesure où dans nos relations, Christ apparaît, la différence que tu viens faire dans nos relations apparaît, Seigneur, que les gens de l'extérieur vont savoir qu'on est tes enfants. J'aimerais te prier, Seigneur, pour les couples de cette Église qui... Nous luttons, Seigneur, nous luttons avec nous-mêmes, nous luttons avec notre chair, nous luttons avec notre conjoint qui est tellement différent et qui a ses luttes et ses combats. Et des fois, c'est tellement difficile de juste de vivre l'harmonie et la paix qu'il y a dans l'Évangile, Seigneur. Et on a besoin d'apprendre à penser comme toi, Seigneur Jésus, à aimer comme toi, à pardonner comme toi, Seigneur. C'est difficile, les luttes sont ardues, Seigneur. Souvent, on ne trouve pas le chemin pour être doux, pour être humble, pour être bon, Seigneur. Et parfois, il y a des idoles dans nos vies qui font qu'on néglige les bonnes choses dans notre couple parce que nos passions sont ailleurs, Seigneur. On a démissionné dans notre cœur. J'aimerais te prier pour les couples, Seigneur, dans cette Église. C'est vraiment une unité que tu as créée. C'est ton idée, Seigneur, le mariage. Et c'est là pour représenter notre communion avec toi, la relation entre l'Église et son époux, Christ. Et nous avons tellement besoin de grandir, Seigneur, à cet égard. Afin que nos enfants, nos voisins, nos amis voient l'Évangile dans notre manière d'agir l'un avec l'autre et que lorsqu'ils perçoivent des désaccords, des conflits, qu'ils voient l'Évangile aussi venir faire toute la différence, Seigneur. J'aimerais te prier pour le conférencier qui va enseigner en fin de semaine prochaine. Toi, tu connais l'état de son cœur, sa communion avec toi, Seigneur. Toi, tu sais, Seigneur, si actuellement le diable a réussi à prendre un peu de terrain dans son cœur, à le distraire de la mission que tu lui as confiée. Tu connais l'état de son couple, Seigneur. On veut te demander de le bénir cette semaine. Viens le remplir de ton esprit. Viens le préparer afin que ce soit ta parole qui nous soit apportée ici, Seigneur. Enfin, Père, je veux te demander d'être avec moi ce matin, d'être avec nous alors qu'on se penche sur ce passage pour une troisième semaine, Seigneur. Plus tu m'aides à comprendre ton projet, plus je suis émerveillé par sa beauté, Seigneur. Et en même temps, je comprends un peu plus le défi qu'il y a à vivre l'Église ensemble, à poursuivre Christ ensemble, Seigneur. Je te prie de nous parler ce matin. Viens parler à nos cœurs. Viens, Seigneur, nous aider à saisir l'importance de cette unité, de cette diversité, Seigneur. Viens nous aider aussi à comprendre comment le vivre au quotidien concrètement ensemble. Père, j'aimerais te demander de toucher le cœur de ceux et celles qui n'ont pas encore saisi Christ, qui ne savent pas qui tu es, ce que tu as fait pour eux. J'aimerais te prier, Père, pour ceux et celles qui ont démissionné de ton projet dans leur vie, Seigneur, et de ton projet dans l'Église. Le cœur s'est refroidi, Seigneur, parce qu'ils doutent de toi, parce qu'ils doutent d'eux-mêmes, parce qu'ils doutent de l'Église, Seigneur. Viens, Seigneur, briser ces résistances. Viens leur dire combien tu les aimes et combien tu as à cœur, Seigneur, ce projet de sanctification, de transformation à l'image de Christ ensemble, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Éphésiens 4, les versets 7 à 16. Je pense que c'est la troisième fois que je vous les lis en trois semaines. Éphésiens 4, versets 7 à 16. Je pense que ça commence à 11. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le titre de la série, c'est « Le chrétien upgradé ». Dans les termes de Paul, comme on vient juste de le lire ici, on parle du perfectionnement des saints. On parle d'une grosse mise à jour. La semaine dernière, c'est ça qu'on a vu ensemble. L'upgrade est majeur. La mise à jour est énorme, puisque l'objectif, on vient de le lire ensemble, c'est de nous transformer à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est de prendre les individus que nous sommes et la communauté que nous sommes et de nous transformer dans notre caractère, dans notre manière de voir la vie, dans notre vision du monde, dans notre vision de Dieu, dans notre vision des épreuves qui surviennent, dans notre vision de nos biens matériels, dans nos relations les uns avec les autres. Et de nous transformer et de nous donner le caractère de Jésus-Christ. Prendre la personne que vous êtes actuellement et vous amener à être comme Christ. Dans les épreuves, dans les relations, dans votre gestion de votre temps, dans votre gestion de votre argent, devenir comme lui. Grosse mise à jour. C'est un gros projet. Et comme on l'a vu la semaine dernière, la beauté dans tout ça, et c'est là vraiment notre espérance, c'est que ce projet-là, c'est le projet de Dieu. Avant d'être mon projet à moi, c'était le projet de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Nous sommes sauvés par grâce, par la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Et c'est par sa grâce que nous sommes transformés. Alors, ça peut être extrêmement décourageant comme projet. Ça nous amène à avoir le goût par moment de démissionner. Mais c'est le projet de Dieu et c'est lui qui va le mener à terme. De la même manière que je n'ai pas pu me sauver moi-même. Parce que je suis un pécheur et je ne pouvais pas me sauver avec mes bonnes œuvres. J'ai été sauvé par grâce. De la même manière, c'est par sa grâce que je vais être transformé à l'image de Christ. Maintenant, ce matin, je vais vous parler d'unité et de diversité. Oscar nous a trouvé une belle image. Vous connaissez le rugby? C'est un sport qui me fascine. Le football européen, vous connaissez ça? C'est super chic. Okay? Les gars sont dans la mêlée, le ballon est lent. Les deux équipes sont face à face. Qui a jamais vu ça? Là? Juste pour savoir si en train de parler de quelque chose que vous avez jamais vu. C'est fantastique à voir. De toute beauté, c'est hyper violent. Fait que les deux équipes, hein, chaque équipe se tient comme ça, puis les deux équipes font un parfait match. Je ne sais pas, des fois, il doit avoir des erreurs parce qu'ils foncent, puis il me semble, tu sais, deux têtes qui se rencontrent, podcast de football. Puis là, les deux équipes sont à côté comme ça, puis le ballon est lancé en dessous. Puis le ballon doit être dirigé en dessous de ça. Je trouve que c'est une belle image de l'Église. L'unité dans la diversité. Et quand tu décides que tu embarques vraiment, là, que tu deviens participant, bien des fois, ça devient aussi sale que ça aussi. C'est pour ça qu'il y en a qui restent derrière. Vous voyez, derrière, il y a des gens qui sont en train de regarder. Parce qu'entrer vraiment, puis embarquer et participer dans le projet de Dieu, c'est entrer dans ces relations-là. Ça va faire mal. Ça va devenir sale par moment. Et certaines personnes décident à un moment ou un autre, après avoir essayé, de se retirer un petit peu et de devenir des spectateurs. Juste de rester à l'arrière. Certains d'entre vous, ce matin, là, votre chemise n'est pas très, très sale. Parce que depuis quelque temps, vous êtes devenus des spectateurs du projet de Dieu. Ça fait trop mal, on salit trop, trop difficile, trop de heurts, trop d'accrochages. Ce matin, je vais vous parler d'unité dans la diversité. La semaine dernière, on a commencé à voir que cette transformation que Christ veut faire dans nos vies, ce n'est pas tellement un projet individuel autant qu'un projet de communauté. Regardez avec moi le verset 16. « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » On parle ici d'un projet de transformation d'un corps. Au verset 12, pour le perfectionnement des saints, on voit ici les individus en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce que Paul est en train de nous dire dans ce passage-là, c'est que Dieu n'a pas autant à cœur de créer des super individus que de créer une super communauté. Est-ce que ça a de l'allure ce que je vous dis? Dieu n'a pas autant à cœur de créer une super Esther, un super Samuel, transformé par Jésus-Christ, un super Yannick, bouleversé par Christ. C'est plus le même homme qu'une super communauté qui vit ensemble. Vous savez, des super individus exceptionnels, il y en a plein sur la planète. On les regarde, ils sont inspirants, puis « Wow, j'aimerais ça être comme lui ». On en a tous, là, dans tous les domaines, les sports, l'informatique, la littérature, la musique, n'importe quoi. Quel que soit votre dada, là, vous avez des gens comme ça. Même dans la foi, on a comme, wow, des super individus, génial, j'aimerais ça être comme lui, tu sais. Puis il y a une place pour ça. Il y a une place pour ça dans la Bible. On parle de David, David est unique. Il y a des individus dans la Bible. Mais lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, ce qu'on voit constamment, c'était déjà là dans l'Ancien, ça devient beaucoup plus clair dans le Nouveau Testament. Le projet de Dieu qui revient constamment, 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 c'est cette super communauté qu'il veut bâtir. Vous savez, Beethoven, c'était un super individu qui a écrit des super pièces de musique. Pourtant, dans l'éternité, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce qu'il a écrit va nécessairement être joué dans l'éternité. Ce que je vois apparaître dans l'éternité lorsque je lis le Nouveau Testament, c'est l'Église. C'est l'Église qui est auprès de Jésus-Christ. Lorsqu'on arrive à la fin du livre de l'Apocalypse, puis qu'on arrive à la fin des temps, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans la présence de Christ? C'est l'épouse de Christ qui est composée d'un paquet d'individus, c'est vrai. Mais ce qui est glorieux, c'est cette communauté qui poursuit ensemble Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on voit apparaître à la fin. Alors, dans le Nouveau Testament, lorsqu'on lit la Bible, ce qu'on voit, c'est que le projet de Dieu, c'est de bâtir le corps de Christ, qui est composé d'individus. Mais ce qui va être la marque de Dieu sur la terre, c'est cette dynamique du corps de Christ, ensemble. Maintenant, si vous êtes familier un petit peu avec la Bible, lorsque tu crois en Jésus-Christ, automatiquement, tu fais partie du corps de Christ. Hein? Tu reçois son esprit, tu fais partie du corps de Christ. Moi, je suis chrétien, je fais partie du corps de Christ, je fais partie de l'Église universelle de Dieu. C'est vrai. C'est vrai, on le voit dans le Nouveau Testament. L'Église universelle, c'est tous les croyants partout sur la terre qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont cru en Jésus-Christ à travers tous les temps aussi. Ça, c'est l'Église universelle. Mais quand vous lisez le Nouveau Testament, on se rend compte qu'il est rarement question de cette grande Église universelle, intangible, pas concrète, mais il est habituellement question d'une Église locale. Et on est dans la lettre aux Éphésiens. La lettre aux Éphésiens, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une Église locale. Il a écrit à une église locale qui était dans la ville d'Éphèse, c'est la lettre aux chrétiens d'Éphèse, la lettre aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. Il est en train de s'adresser à eux et il est en train de dire, voici, dans vos relations ensemble, vous devez être une représentation sur la terre, une représentation concrète du corps de Christ, dans vos rapports les uns avec les autres. Et c'est dans la mesure où vous allez être en train de grandir ensemble, d'avancer ensemble, que vous allez vivre cette réalité du corps de Christ. Nous, on vit à l'époque de l'individualisme par à outrance. L'individu est roi. Notre rêve, à plusieurs d'entre nous, c'est de laisser notre marque. C'est vrai? Lorsqu'on est jeune, on rêve, comment je vais pouvoir laisser ma marque? Puis là, tu t'en vas sur YouTube, puis là, tu regardes, comment il s'appelle le Flo là, qui a fait un vidéo, puis... Comment ça s'appelle? Justin? Comment? Non. Il y a un jeune là, qui est populaire. Ma fille m'en parle des fois. Comment? Justin Bieber. Fait que là, il fait une vidéo, c'est mis sur YouTube. La vidéo la plus vue dans le monde, Justin Bieber, il est jeune. Il ne sait même pas encore comment se raser. Il ne sait pas c'est quoi un poil de barbe. Mais il est connu. Il a fait sa marque dans l'histoire. Ce gars-là peut mourir. On est d'accord? Il peut mourir maintenant, il a tout fait. Il a fait sa marque dans l'histoire. Et on aspire à ça. Comment laisser ma marque autour de moi? Je veux que mon individualité, moi, là, je sois remarqué à quelque part. Puis dans un sens, on est tous différents. Alors, c'est vrai qu'on est tous des individus différents. Mais quand j'arrive dans le projet de Dieu, la marque que nous sommes appelés à laisser, c'est la marque de l'Église. Jésus-Christ a dit, c'est dans l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils sauront, qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. La marque que nous sommes appelés à laisser, c'est une communauté qui poursuit Jésus-Christ et qui s'édifie dans l'amour. Ça, c'est la marque que nous sommes appelés à laisser. L'Église de l'espoir, c'est pas l'Église de Yannick. Des fois, j'entends ça, ça me fait toujours bizarre cette affaire. Ah ouais, ça, c'est l'Église d'Hugo, hein? Ça, c'est l'église de Yannick. C'est l'église de Yannick? Non, je suis désolé. Pas l'église de Yannick. Yannick, il reste quelques années, il va mourir. Si le Seigneur ne vient pas, il va en avoir un autre. Alex va me bumper bientôt, là. OK? Puis après, Alex, ça va être un autre. Gloire à Dieu, c'est super! C'est pas l'église de Yannick, c'est l'église de Jésus-Christ. Comprenez, même moi, comme individu qui est en avant, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'à travers ce qu'on est en train de faire ensemble, on vit la réalité de l'Évangile ensemble. Ma marque à moi, c'est qu'à un moment, dans un temps précis, il y avait une communauté qui est en train de vivre l'Évangile ensemble. C'est correct, je suis content que mes enfants sachent que je m'appelle Yannick, puis il y a quelques amis autour de moi qui disent « Oh, il y a un individu qui s'appelle Yannick, je le connais personnellement, il n'est pas comme les autres. » C'est correct, il y a une place pour ça. Mais super Yannick n'attirera pas grand monde à Jésus-Christ. Parce que super Yannick, il n'est pas comme les autres, tu sais. Puis ce que ça dit à tout le monde, c'est « J'aimerais juste être exceptionnel comme lui. » Puis comme je ne suis pas exceptionnel comme... Comment il s'appelle le jeune? Ben, moi, je n'aurais pas un gros score sur YouTube. Juste sur Facebook, tu sais, combien de monde qui vient de me voir, tu sais. Je suis faite, j'y arriverai pas. C'est pas important. C'est tellement pas important. Le projet de Dieu, c'est une communauté. C'est pas tellement de créer des super individus, mais c'est de créer une super communauté qui est rassemblée autour d'une personne, Jésus-Christ. Alors, Paul fait deux choses ici dans le texte. Il nous parle de diversité. Il nous dit, dans l'Église, il y a une diversité d'individus qui ont une diversité de dons, une diversité de forces, une diversité de rôles. Le corps est composé d'individus divers, tellement différents que ça va amener un paquet de problèmes. Puis, ces gens-là sont assemblés autour d'un nom, une personne, Jésus-Christ. Il semble que les deux éléments sont essentiels pour bâtir le corps de Christ. Alors, juste un mot sur l'unité. Ce qui nous unit ensemble, ce n'est pas un programme. Il y a des églises qui ont des super programmes. Si c'est ça qui tient cette église-là ensemble, c'est totalement pathétique, je vous le dis. Ce qui nous unit ensemble, ce n'est pas une vision. C'est utile, une vision, ça nous aide à savoir où on s'en va. Ce n'est pas ça qui nous unit ensemble. Ce qui nous unit ensemble, ce n'est pas un super preacher charismatique. Ce qui nous unit ensemble, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Et c'est parce que nous poursuivons cette personne que nous voulons la saisir, la connaître, lui ressembler, être transformés à son image, que nous pouvons trouver l'unité ensemble. Alors, d'une part, il y a l'unité en Jésus-Christ, et d'autre part, il y a la diversité. C'est là que ça se corse, là. Parce que Paul semble dire que la diversité est essentielle à ce qu'on soit transformé à l'image de Christ. Mais ça pose un problème. Parce que normalement, nous, comme êtres humains, on est mal à l'aise avec les gens qui sont différents de nous. Il y a plein de gens différents ici, toutes sortes d'individus qui ont des opinions, des idées, des préférences, des aspirations différentes. Et dans notre vision des choses à nous, généralement, on voit ça comme un obstacle à l'unité. Oui, mais il est tellement différent de moi. J'ai essayé de me réunir avec ces gens-là, mais ils sont tellement différents de moi, je pense qu'on ne pourra jamais se comprendre. Voyez-vous, on cherche à se reconnaître dans un groupe d'individus qui va croire, aimer, être passionné pour les mêmes choses que nous, qui va dire les choses comme nous, qui va voir les choses comme nous. Pourtant, Paul nous dit qu'on est tous différents et que ça contribue à édifier le corps de Christ. Mais nous cherchons naturellement des gens en qui nous allons nous reconnaître. Laissez-moi le dire comme ça. Si je veux vraiment me reconnaître, là, j'ai juste à prendre un miroir puis me regarder dedans. Je vais me reconnaître. Mais ce qui est important dans l'Église, là, c'est pas tellement que je me reconnaisse, autant que je reconnaisse dans des gens tellement différents l'œuvre de Christ dans leur cœur. Alors là, à ce moment-là, si je suis en train de chercher ce que Christ est en train de faire dans la vie de Samuel, Samuel a beau peut-être pas triper sur les arts comme moi, je ne sais pas, peut-être que Sam aime les arts. Peut-être qu'il n'a pas les mêmes champs d'intérêt que moi. Tu sais, du jazz fusion, là, peut-être qu'il trouve que c'est du bruit. Mais c'est pas du bruit, je te le dis, Samuel, c'est toucher à un nuage pour accéder au ciel. Tu sais. Puis peut-être que le café de Tim Hortons ou un cappuccino, il y en a un qui coûte cher. Tu sais. On prend l'autre. Non, c'est pas pareil. Alors, j'arrive là, il y a des gens qui sont complètement différents de moi, puis quand ils disent les choses, ils les disent pas comme moi, ils les voient pas comme moi, ils les vivent pas comme moi, et j'ai tendance à voir dans ça un obstacle à ce que je puisse me reconnaître avec eux, puis avancer avec eux. Je voudrais avoir des gens semblables à moi. Ça va tellement loin que dans un pays comme les États-Unis, on met sur pied des églises juste pour un type d'individu. Là, on va créer une église avec ce genre musical-là, pour ce groupe d'âge-là, et ça va être une église juste pour eux. Ils vont se reconnaître dans cette église-là. Mais on ne réalise pas qu'on est en train d'attaquer de plein front l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est cette puissance de Dieu pour nous réconcilier avec Dieu puis nous apprendre à se réconcilier avec les hommes. Donc, avec les différents. Avec l'autre qui ne me comprend tellement pas. Au point d'arriver à une étape où je vais dire à quelqu'un, tu sais, il y a un gars à l'église, il est vraiment weird. Lui, il regarde une toile puis il se met à pleurer, tu sais. Puis en plus, il prêche des fois le dimanche chez nous. Mais sais-tu quoi? Il a beau être complètement weird, j'ai vu que Christ est en train de faire quelque chose dans sa vie. Jésus-Christ est en train de le transformer. Puis quand je l'ai entendu prier l'autre fois, j'ai vu qu'on était unis en Jésus-Christ. Alors, à un certain moment donné, certains d'entre vous, vous avez commencé à saisir cette importance d'entrer dans des relations les uns avec les autres. Il faut aller dans cette diversité-là, puis chercher Christ, poursuivre Christ ensemble. Aller pour saisir Christ avec des gens différents. Puis là, vous avez dit, OK, mais si c'est le projet de Dieu, on va mettre le pied à l'eau un petit peu. Oh, c'est pas trop frais, ça fait pas trop mal. On va l'essayer. Le hic, là, Paul ne le dit pas ici, il veut qu'on embarque, là. Mais le hic, c'est que non seulement on est différent, mais en plus de ça, on est pécheur. Là, ça complique vraiment les affaires. Parce que non seulement on voit les choses différemment, on les dit autrement, on les ressent autrement, on a d'autres hobbies, d'autres dadas, d'autres manières de s'habiller, n'importe quoi. Mais en plus de ça, on est pécheurs. Fait que là, ça devient sale, là. Là, ça devient sale parce qu'il va falloir que je me réunisse avec des gens qui sont très, très différents de moi, qui me disent qu'ils aiment tout Jésus-Christ, mais la dernière fois, je ne l'ai pas vu parce qu'il y en a un qui m'a ramassé, mon ami. Moi, je pensais qu'on aimait Jésus là, dans cette gang-là. Mais je me suis fait varloper par celui-là. Il est tellement brusque quand il parle, Yannick. Il est bête. C'est vrai, vous avez raison. Ma femme me le dit régulièrement, puis le Seigneur est en train de travailler dans mon cœur. Mais tu sais, j'ai parlé avec Yannick, puis ça m'a heurté. Là. Il manque de douceur. Il est pécheur. Puis l'upgrade n'est pas terminé. Mais ça complique les affaires. Parce que moi, j'avais fait confiance au Seigneur. Je pensais que j'allais trouver dans l'Église des gens qui aiment, tu sais. Il y en a sûrement, mais dans mon petit groupe, en tout cas. Il y en a qui nous parlent toujours de son petit groupe. Ça doit être comme le seul qui est hot. Allez demander aux gens de mon petit groupe pour voir s'il est si hot que ça. Des pécheurs. Des pécheurs. Alors, certains d'entre vous, vous avez saisi que le projet de Dieu, c'était bâtir l'Église, un corps où je suis rassemblé avec des gens différents, mais on poursuit un objectif, devenir comme Jésus-Christ. Vous avez essayé l'Église, puis vous avez rejeté le produit. Ça va tellement loin, ma conviction, que je partageais avec Michel ce matin. Je pense que certains chrétiens traitent leur relation avec l'Église comme les non-croyants traitent leur relation d'amour. J'ai essayé, ça ne marche pas, je vais changer. Est-ce que ça se peut que la différence ne soit pas si grande? Oui, mais si c'était ça le projet de Dieu, si c'était justement ça le projet de Dieu, de prendre des individus qui sont différents et pécheurs, puis de les rassembler ensemble, puis juste mettre cet ingrédient qui est Jésus-Christ, l'Évangile au milieu d'eux, pour les transformer progressivement à travers leur relation chaotique, d'accord? Comme ça, là. Si c'était ça le projet de Dieu pour nous transformer, de permettre qu'il y ait des blessures, des offenses, des accrochages qui viennent exposer des choses qui sont dans notre cœur, qui nous donne le goût de se retirer puis d'abandonner. En disant, ah, ces gens-là, tu sais, je veux dire, si vraiment ils connaissaient le Seigneur, ils n'auraient jamais dit ça. Oui, mais qu'est-ce que Dieu est en train de te dire concernant toi? Personnellement, ma conviction de plus en plus claire, c'est que lorsque je me retire d'une relation, quand je me retire d'un petit groupe, quand je me retire d'un ministère à cause de conflits, à cause de tensions, quand je me retire d'une église, ma conviction de plus en plus claire, c'est que je suis en train de fuir l'œuvre que Jésus-Christ veut faire dans ma vie. Il est arrivé quelque chose, il y a eu un accrochage, je ne suis pas d'accord avec lui, puis ça me met à l'envers. OK, qu'est-ce que ça révèle sur ton cœur? Est-ce que tu fais tellement un grand cas de ta personne que tu n'es pas capable de t'humilier puis accepter qu'il voit les choses autrement? Non, mais il a manqué de considération envers moi, là. Tu comprends? Mais est-ce que Christ, on n'a pas manqué de considération envers lui? Est-ce que tu peux aller plus près de Christ là, avec ça, là? C'est quoi l'œuvre que Christ a voulu faire dans ta vie au moment où tu t'es retiré? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu voulait former en toi à la ressemblance de Christ au moment où tu t'es poussé? Tu t'es sauvé? Si c'était ça le projet de Dieu, de prendre des pécheurs qui sont différents puis qui vont s'accrocher, mais de voir l'Évangile venir faire la différence. Comment est-ce que ça va se faire? Mais Paul le dit au verset 15. Il dit, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. » C'est en exprimant, en disant ensemble la vérité dans l'amour qu'on va grandir à l'image de Christ. Maintenant, ce n'est pas n'importe quelle vérité ici. D'accord? Il ne s'agit pas juste de dire la vérité. Gars, je vais te dire la vérité, là. Tu fais dur. Bon, là, vous allez me dire, il manque d'amour. Mais oublie ça, c'est même pas juste ça. J'arrive après à l'amour. Dans le passage d'Éphésiens 4, c'est extrêmement clair. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. C'est dire la vérité concernant Christ dans une situation. J'ai le goût de me retirer parce que lui, il m'a blessé, puis je ne veux plus rien savoir de ma relation avec lui. Peut-être que Dieu m'accorde la grâce de venir dire la vérité concernant Jésus-Christ. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humilité, juste m'approcher d'un frère et dire, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire sur Christ là, dans cette relation-là où tu veux te retirer? Tu as été blessé. Qu'est-ce qu'il est en train de te révéler sur Christ? Oui, mais moi, je veux abandonner parce que je ne me trouve pas de conjoint ici. Je vais aller en chercher un dans le monde. Parce qu'il n'y en a pas dans l'Église. J'ai besoin d'aller vers cette personne-là, vers ce frère, cette sœur, puis juste être dans cette relation intime, puis lui dire, qu'est-ce que Christ est en train de te dire, de révéler sur ton cœur pour que qu'il ne soit plus suffisant pour toi au point que tu aies cherché un inconverti? Est-ce que ça se pourrait que cet amour recherché-là soit plus précieux à tes yeux que Jésus-Christ? Parce que c'est clair qu'il te demande d'attendre encore, on ne t'a pas trouvé. Voyez-vous, je suis en train de dire la vérité concernant Jésus-Christ. Oui, mais je suis en train de lutter avec la pornographie. Je lutte, moi, parce qu'écoute, on vit à une époque incroyable. Là. On n'a jamais été sollicité comme ça. C'est vrai, j'y pensais encore. La semaine dernière, je me disais, ça se peut pas vivre à cette époque-là. C'est comme, wouh! Il faudrait qu'on marche les yeux fermés tout le temps. Puis je lutte avec ça, puis finalement, je commence à voir les choses un petit peu autrement. J'ai des chrétiens qui m'ont demandé, Yannick, qu'est-ce que tu penses de l'idée, par exemple, qu'un couple, tu sais, stimule sa soirée en regardant un film ensemble? Un film 3X, tu sais. Là, tu commences à dérailler. Tu réalises que finalement, aller vers ton épouse en pensant à quelque chose que tu as vu, puis hop, ça t'aide finalement à avoir du bon temps. Je m'excuse, je suis assez direct. Hein? Mais vous comprenez que Paul, c'est ça qu'il est en train de dire lorsqu'il dit, arrêtez, vous êtes en train de déraisonner. Là. C'est des séductions du monde, c'est une fausse pensée. C'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Christ vous a appris à être fidèle, parce que lui est fidèle envers vous. Lui marche dans la sainteté. Et il vous enseigne à marcher dans cette sainteté. Ça, c'est des mensonges du monde, ces affaires-là. Alors, voyez-vous, lorsque Paul dit que c'est en disant la vérité ensemble, il est en train de parler de la vérité qu'il y a en Jésus-Christ. La vérité, c'est qu'il n'y en a pas de bonheur ailleurs. Oui, mais ça ne marche pas. Moi, écoute, j'ai essayé, puis ça ne marche pas. Tu ne peux pas vraiment être en paix avec Dieu. Mais la sœur qui dit ça a besoin que tu viennes lui dire la vérité avec amour. La ramener à la croix, la ramener au sacrifice de Christ. Lui rappeler qu'il n'y a personne qui est mort sur la croix pour elle. Il n'y a aucun plaisir que tu vas aller chercher dans le monde où tu vas trouver quelqu'un qui t'a aimé comme Jésus-Christ. La vraie paix, c'est d'être réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. Et nous avons besoin d'apprendre ensemble comme Église, à dire la vérité concernant la personne de Christ, tout ce qu'il y a dans l'Évangile, avec amour. Parce que déjà, si je suis en train de dire la vérité puis qu'il n'y a pas d'amour, bien, certains diront, et c'est vrai, que je ne suis peut-être plus en train de dire la vérité. Si je suis en train de dire quelque chose, mais qu'il y a un jugement, une condescendance, une attitude de moralisme, moi, je suis meilleur que toi, copain. Je suis déjà en train de déformer la vérité que j'essaie de dire avec mes lèvres. Mais c'est vraiment avec cet amour qui vient d'un cœur qui a été brisé par l'Évangile. Je sais que je suis le pire des pécheurs. Chaque matin, quand je me lève, je me reconnais dans le miroir. Pire des pécheurs. Comment je pourrais arriver avec prétention devant quelqu'un et dire, comment ça fait que tu es juste rendu là dans ta vie chrétienne? Regarde, je ne comprends pas que tu ne catches pas ça. Là. C'est comme, tu es encore en train de niaiser avec ces péchés-là? Ça fait 10 ans que je te vois niaiser avec ces péchés-là. Comment je peux avoir cette attitude condescendante alors que moi-même, j'ai été humilié par l'Évangile? Alors, je vais aller puiser dans l'Évangile cet amour, cette grâce que Christ m'enseigne. Lui m'attend toujours, chaque matin, quel que soit mon péché, Christ m'attend. C'est avec ce cœur-là que je vais aller vers les autres. Frères et sœurs, le projet de Dieu, ce n'est pas de faire des super individus. Et si c'est ça que vous êtes en train de poursuivre, vous allez vous retirer de l'Église, je vous avertis. Peut-être que vous allez venir ici le dimanche, un peu comme ces gens qui vont assister à un match de foot. Mais dans le fond, dans votre cœur, vous êtes retiré. Vous n'êtes plus engagé, vous n'êtes plus participant à cette vie-là. Parce que ce que vous cherchez, c'est vous, votre émancipation, votre transformation. Mais le projet de Christ pour vous transformer, c'est d'être en communauté avec des pécheurs différents. De rester dans ces relations-là, de ne pas les fuir. Et chaque fois que j'ai la tentation de fuir ces relations-là, de me désengager, je dois me poser la question, c'est quoi l'œuvre que Christ veut faire dans mon cœur que j'ai le goût de fuir à ce moment-ci? Qu'est-ce que je suis en train de fuir pour de vrai? Je suis en train de fuir de mourir un peu plus à moi-même. Je suis en train de fuir de pardonner encore une fois. Je suis en train de fuir de me soumettre et puis juste de suivre la direction. Je suis en train de fuir le fait qu'on ne me donne pas toute la place que je voudrais. Qu'est-ce que tu es en train de fuir lorsque tu te désengages comme ça? Parce que le projet de Dieu, c'est cette unité dans la diversité. L'unité, on va la trouver seulement si on garde les yeux fixés sur Christ. C'est ça qui nous rassemble. Autrement, on est tellement différents. Il y a combien de monde ici qui aime le jazz fusion? Je disais, même mon épouse n'aime pas ça, là. On s'entend? Ah, l'âme paradis. J'ai une amie dans l'église. Oh, deux! Hey, Brune. OK, on prend un café cette semaine. Jazz fusion, c'est ma nouvelle église. Je n'ai pas beaucoup d'affinité avec la majorité d'entre vous, mais est-ce que je peux reconnaître en vous l'œuvre que Christ est en train de faire dans votre cœur? Et si on peut se mettre à poursuivre ça ensemble, examinez vos cœurs cette semaine, je vous le demande. Je vous le demande, examinez vos cœurs pour savoir si vous êtes désengagé dans le projet de Dieu. Vous avez démissionné. Puis là, vous dites, mais Seigneur, ça ne marche pas, puis ça me décourage la vie chrétienne parce que je ne change pas, je ne grandis pas, j'avance pas. Oui, mais ce n'est pas un autre livre à lire tout seul chez toi qui va faire que tu vas grandir. Ce n'est pas ça. C'est d'être proche des chrétiens, d'être dans cette communauté. Et celui ou celle qui se retire, qui se désengage, est en train de fuir l'œuvre que Christ veut faire dans son cœur. Ça va devenir sale. Ça va faire mal, mais qui a dit que ce n'était pas douloureux des fois de mourir à soi-même puis de grandir à l'image de Christ? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce matin parce que toi, tu continues même quand ça devient sale. Même quand nos vies sont tout croches, quand notre consécration n'est pas là, quand nous permettons à des péchés de revenir, quand nous négligeons de venir vers toi pour t'adorer, pour te célébrer, pour te confier nos inquiétudes. Toi, tu demeures fidèle, Seigneur Jésus. Bien, Seigneur, on veut devenir comme toi. On veut être transformé à ton image. Nous voulons apprendre à devenir fidèles envers ton Église, envers les frères et sœurs, même quand eux sont infidèles envers nous. Même quand eux nous blessent, quand eux nous heurtent, quand eux ne nous reconnaissent pas, Seigneur, nous voulons devenir comme toi, Jésus. Et Seigneur Jésus, tu es tellement gracieux, prêt à pardonner. Dès qu'on se tourne vers toi, tu es prêt à pardonner, Seigneur. Mais plus que ça encore, Christ, je l'ai vu tellement de fois dans ma vie, tu me poursuis quand je m'égare. Tu es ce bon berger qui se lance à ma recherche, Seigneur. Je veux devenir comme toi envers les frères et sœurs. Je veux courir après ceux qui s'égarent. Je veux être gracieux envers ceux qui sont durs envers moi, Seigneur. Parce que c'est seulement à ce moment-là que je vais commencer à te ressembler davantage, Jésus-Christ. Père, je veux te demander de venir faire une œuvre puissante au milieu de cette assemblée. Je demande, Seigneur, de venir donner la foi à ceux qui ont perdu la foi dans ton projet. Et ça, c'est toi qui le fais, Seigneur, par ton esprit. pas une construction humaine qu'on essaie de faire ici. On n'essaie pas d'assembler un groupe d'individus autour d'un super preacher ou d'un programme ou quoi que ce soit. Mais nous avons besoin que toi, Jésus-Christ, tu viennes parler au cœur et que celui et celle qui ont démissionné croient en toi, Seigneur. Que celui ou celle qui ont essayé l'Église et qui ont décidé que c'était trop dur, trop douloureux, se repentent et reviennent vers toi, Seigneur, en acceptant de faire face à tout ce que tu veux changer dans leur vie, Seigneur. Je te prie, Père, qu'à travers les prochains mois, nous voyons concrètement dans cette assemblée des gens s'engager dans des relations en poursuivant Jésus-Christ. Viens nous apprendre, Seigneur, concrètement comment dire toutes les vérités qu'il y a en Christ avec amour, Seigneur. Viens nous apprendre ça dans le cours d'évangélisation, dans le cours connaître Dieu, dans le cours comment interpréter la Bible, Seigneur, dans le cours de l'Église de l'Espoir. Apprends-nous à voir Christ, à pouvoir se rassembler autour d'une personne, Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, la marque que nous voulons laisser dans notre génération, dans cette ville, c'est l'amour que nous avons pour les uns pour les autres, au nom de Jésus-Christ. Amen.